Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, rebonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Il est 16h42, on est ravis d'être avec vous. Vous êtes sur Territoria et sur Radio Immo. Beaucoup de mouvements. Et vous avez d'ailleurs été assez nombreux à réagir, merci. Et si vous avez la possibilité, bien évidemment, on vous accueille avec beaucoup de plaisir ici à Montpellier, à H-Expo, le congrès de l'Union sociale pour l'habitat. Voilà. On nous dit qu'on attend peut-être, alors d'une minute à l'autre, alors à mon avis ce sera plutôt demain et après-demain, notre toute nouvelle ministre du Logement, Valérie Létard, une députée, ancienne sénatrice, plutôt affûtée, plutôt habituée aux compromis, notamment avec Bercy. Je rappelle que Valérie Létard est la personne qui a piloté, vous savez, l'application de la loi ZAN. Voilà, on fait le tour justement de la planète, de la fabrique, de la ville, et on a réuni donc des professionnels en activité. On va parler aujourd'hui d'un référentiel du profil Procivis Habitat Durable. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Franck Petit. Bonjour Franck.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Ça va bien, merci.
Directeur de la maîtrise ouvrage pour le réseau Procivis. Merci Franck d'être avec nous. On a le plaisir d'accueillir également sur le plateau Karine Thomas. Bonjour Karine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de Prestataire Certification. Vous nous expliquerez un peu plus avant l'objet, la nature de votre entreprise. Merci d'être avec nous également sur le plateau. Merci également à Laetitia Vidal d'être avec nous. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien, merci de m'accueillir.
J'adore vos lunettes.
Ah, voilà.
T'as un style extraordinaire.
Je les ai mises spécialement pour vous.
Voilà, quand je serai grand, je veux être Laetitia Vidal.
Super.
Voilà, voilà, vous êtes directrice générale de Pierre Passion, oui, du réseau Procivis.
Exactement.
Merci également d'être avec nous. Une grosse actualité, je vais commencer par vous Franck. On va évoquer justement l'officialisation de ce fameux référentiel. Profil Procivis Habitat Durable, c'est quoi, c'est comment et qu'est-ce que c'est ?
Alors ça fait un an qu'on travaille sur ce profil. En fait, Procivis Habitat Durable, c'est une manière pour nous de marquer notre engagement social et surtout environnemental. Procivis, comme vous le savez certainement, ça existe depuis plus d'un siècle avec d'abord un engagement social fort, avec un positionnement essentiellement sur l'accession sociale à la propriété. Et il va de soi que depuis quelques années, cette accession sociale à la propriété et ce positionnement social va évidemment avec une deuxième jambe qui est l'environnement et le sociétal. De nombreuses certifications, de nombreux labels existent, souvent un peu contraints, parfois par des chartes de ville. Et donc, compte tenu de notre diversité, parce que rappelons que Procivis, c'est un réseau mutualiste, donc chacun fait dans sa région, selon son territoire, selon les volontés de ses élus, des activités qui vont être évidemment de l'accession sociale, mais sous forme de maisons individuelles, sous forme de collectifs, à travers des bailleurs sociaux, à travers des promoteurs immobiliers et des constructeurs de maisons individuelles. Donc pour arriver à satisfaire tout ce monde et tous ces territoires, nous avons décidé d'engager nous-mêmes notre propre référentiel de manière à ce que nous puissions ensuite mesurer nos efforts, mesurer là où on se situe et non pas faire du greenwashing, tout simplement dire voilà ce qu'on fait en choisissant nos thèmes. Et l'idée, c'est de pouvoir embarquer tout le monde avec un certificat qui permettra d'être labellisé, certifié par rapport à des référentiels et des certifications qui sont déjà bien connus. On peut citer ou que pourra expliciter Karine, qui est la spécialiste. Et donc, nous, l'idée, c'est d'embarquer toutes nos sociétés vers mieux construire, construire plus vert et construire plus social. Donc ce référentiel, il a pour objectif de balayer un certain nombre d'items sur l'énergie, d'items sur le carbone, sur le bien-vivre, sur le confort, sur la lumière, sur l'eau, etc. Et pour cela, on a dû s'appuyer sur quelque chose qui existe déjà, qui est un référentiel qui est porté par Prestataire. Et c'était l'avantage de nous appuyer sur Prestataire, c'est qu'ils ont l'habitude de travailler sur des référentiels à la carte et en particulier avec certaines métropoles. Voilà la genèse.
Autrement dit, ce que je comprends, Franck, c'est que vous avez créé ex nihilo votre propre référentiel à travers des normes établies par Prestataire.
Alors, est-ce que ça a vocation ? Ex nihilo, pas forcément, mais en tous les cas, nous sommes appuyés sur le référentiel tel qu'il existe pour embarquer tout le monde vers un maximum de points convergents de manière à ce qu'on puisse avoir une démarche cohérente commune.
On embarque le réseau, mais aussi hors les murs, hors du réseau.
On embarque le réseau.
On embarque le réseau. Intéressant, mais vous allez comprendre pourquoi effectivement je vous pose cette question. Bonsoir ou bonjour Karine Thomas, merci d'être avec nous. Donc vous êtes directrice générale de Prestataire. Prestataire en quelques mots.
Alors Prestataire, c'est un des 4 organismes accrédités par le COFRAC pour certifier la performance énergétique et environnementale des bâtiments. Prestataire a été créé en 2008, c'est une ex-filiale d'un espace info-énergie. Donc notre métier à l'origine, c'était d'accompagner les particuliers, les collectivités, les entreprises dans leurs projets de construction, de rénovation et dans l'amélioration des bâtiments. De cette histoire, on a gardé, une démarche très pragmatique et l'ambition de massifier le nombre de bâtiments performants. C'est la raison pour laquelle on a créé une offre permettant d'être flexible et adaptée à l'ensemble des maîtres d'ouvrage, quelle que soit leur taille, leurs enjeux, leurs ressources. On pourra en reparler, mais aujourd'hui, ils sont confrontés à tout un tas d'enjeux. Au-delà des enjeux propres à leur entreprise, c'est aussi des enjeux des politiques territoriales, avec une multitude de dispositifs qu'ils vivent parfois et souvent comme une contrainte.
D'ailleurs, si vous le souhaitez, les amis, et d'ailleurs, vous allez certainement vous manifester à cet égard, vous pourrez retrouver donc Prestataire, TE2RE.EU assez facilement dans le ranking que vous avez sur les moteurs de recherche. On va justement approfondir cette question, mais est-ce que je comprends que finalement, vous accompagnez et dans un univers qui est un univers parfois contraint, qui subit des inflations normatives assez fortes, qui sont prises souvent pour des contraintes, pour dire les choses comme elles sont, même si effectivement les règlements européens, notamment sur la taxonomie, a intégré, et ce qui est une très bonne chose en soi, des ratios extra-financiers, notamment sur tout ce qui impact investing. Hein. J'aime pas trop les anglicismes, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les normes ISR ou ESG, par exemple, et dans lesquelles, effectivement, la nécessaire transformation des bâtiments de la ville devient... il n'y a plus d'options. On est sur un schéma irréversible. On a quand même du mal à décrypter cette actualité. On a du mal à la rendre lisible, surtout quand on voit les rétropédalages d'un exécutif qui n'a pas trop su finalement nous emmener. Alors je vous parle de l'ADEME comme je peux vous parler de l'ANA ou d'autres conduites politiques. Donc je trouve que c'est extrêmement ingénieux que des prestataires existent justement pour aider les professionnels à décrypter cette actualité. Je pense que c'est une bonne chose. Laetitia Vidal, vous allez nous parler de votre entreprise, vous êtes promoteur immobilier.
Exactement, membre du réseau Procivis, donc je dirige Pierre Passion. Nous travaillons sur la région, la grande région toulousaine. Voilà, nous construisons environ 200 logements par an. Et nous avons la particularité, et je tiens à le souligner, d'être une des premières entreprises à mission promoteur de France.
Voilà. Ça date de quand ?
Ça date d'il y a 2 ans maintenant.
Bravo.
Voilà. Donc l'engagement sociétal et environnemental est maintenant dans notre ADN, puisque dans nos statuts. Et donc la démarche était particulièrement intéressante et importante pour nous au niveau du réseau.
Et vous faites partie intégrante du réseau Procivis.
Exactement.
Premier réseau de promotion immobilière coopérative.
Oui.
Alors, je peux vous dire que ça a sa charge symbolique hein, quand on parle de coopérative. Vous savez, quand on dit promoteur immobilier, qu'on met coopératif, en général, les gens ils se demandent si c'est pas une blague.
Oui, c'est vrai. Il y a une certaine défiance.
Oui, vous savez, c'est le vieux mythe, cliché du promoteur avec les Ray-Ban,
le
costard à rayures, etc. etc. mais les clichés ont la vie dure, et Dieu sait que vous avez été très exposé ces 2 dernières années, très injustement. Et c'est vrai que la mort des promoteurs ne fait pleurer personne.
Non.
Pour être très clair, on a détruit l'équivalent de 8000 emplois par mois depuis 18 mois. Mmh. Voilà, ça c'est la réalité. Je vous donne les normes. La référence, c'est la Fédération française du bâtiment. Mmh. Le coup de gueule a été poussé par Olivier Salleron, pas plus tard que la semaine dernière sur notre antenne. Et donc ça vaut le coup de le dire. On va pouvoir espérer avec la nouvelle ministre du Logement. On aurait préféré Xavier Bertrand, c'est sûr. Hein. À la tête de Matignon, puisqu'il était au congrès là récemment, qui a lieu à Lille avec Pascal Boulanger, son président. En tout cas, je suis ravi que vous soyez là pour nous donner ce regard, parce que je trouve extrêmement positif, et ça nous laisse beaucoup d'espoir de voir des promoteurs comme vous qui est complètement intégré dans la cité. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je crois que le nom de votre entreprise, elle résume assez bien votre philosophie. parce que vous mettez de la passion dans ce que vous faites. Et je pense que rien ne saurait résister aux accents de la passion. Alors justement, on va rentrer dans le sujet. Comment on fait, Karine, pour décrypter une actualité dans laquelle souvent il faut mieux prendre un Valium avant de rentrer dans le détail? Parce que je peux vous dire que quand, et encore, je suis connu un peu en tant que journaliste comme un spécialiste de la rénovation énergétique, parce que je déploie pas mal de programmes, notamment pour les caisses du Crédit Agricole, je me dis, même moi j'ai vraiment un gros mal de tête, j'ai même du mal à y comprendre. Comment on fait pour essayer de trouver lisibilité dans un univers qui est contracyclique, pour être très clair là-dessus, et qui finalement amène les promoteurs, les constructeurs comme Franck, comme Laetitia, à se poser des questions, alors qu'on est tous d'accord sur le fond, il faut transformer nos bâtiments.
Oui. Eh bien, en ayant une approche pragmatique et en tenant compte du réel de chaque mètre d'ouvrage. En réalité, il y a déjà un certain nombre de choses qui sont fléchées par la réglementation et les changements réglementaires. Donc ça, notre rôle en tant que certificateur, c'est d'informer sur ces changements et des devoirs des maîtres d'ouvrage. Et ensuite, parce que c'est quand même aujourd'hui ce qui motive la certification et ce que certains vivent comme une contrainte, c'est les dispositifs d'aide qui permettent d'équilibrer les opérations financières. Ces dispositifs d'aide, ils sont fléchés avec un certain nombre d'exigences, et nous, on apporte cette lisibilité. En faisant également des référentiels qui ne soient pas un énième référentiel avec des exigences plus folles les unes que les autres. Nos référentiels sont très simples. Ils traitent des principales thématiques et des enjeux pour répondre à la transition énergétique. Et c'est exactement le travail qu'on a fait avec Franck. Ils permettent finalement d'adapter la certification à chaque opération et pas l'inverse. Et ça, c'est important. Ah, c'est bien. Ouais. C'est important parce que un opérateur, en fonction de sa taille, de ses enjeux, du territoire sur lequel il va construire ou rénover, il va pas avoir les mêmes contraintes, ou en tout cas les mêmes recommandations, où on peut retrouver des contraintes parfois dans des chartes, des villes, dans un PLU, dans un référentiel maison, dans la réglementation. Les tableaux de marge locale, typiquement les bailleurs peuvent majorer leur loyer en répondant à un certain nombre d'exigences et de performances. Ben voilà, c'est de faire le tri dans tout ça et de pouvoir permettre à l'opérateur de certifier son opération en allant choisir des exigences qui d'abord il est en mesure de faire et puis qui va lui permettre de viser les objectifs qui sont fixés. C'est exactement ce qu'on a fait avec Franck, qui finalement a un réseau composé d'acteurs qui sont très représentatifs du panel de nos clients. Il y a des constructeurs de maisons individuelles, des promoteurs, des bailleurs. Ils ont tous des tailles et des enjeux différents. Mais malgré tout, il y a un socle commun. Et c'est à ça qu'on essaye de répondre dans nos référentiels.
Finalement, quand je vous entends, je me dis, on pourrait même, finalement, dans une certaine mesure, aller même plus loin que la réglementation.
Mais nos référentiels, en tout cas, nous, vont au-delà de la réglementation. Une certification, elle pousse à aller au-delà de la réglementation, et de toute façon, les dispositifs d'aide vont dans ce sens. Aujourd'hui, si on doit parler d'une aide qui est très, très sollicitée par les bailleurs sociaux, c'est l'exonération de 5 ans supplémentaires sur la taxe foncière sur le bâti. Eh bien, aujourd'hui, elle vise et elle anticipe les seuils 2025. À partir du 1er juillet 2025, elle anticipera les seuils 2028. Donc, de toute façon, un label, une certification, elle est faite pour tirer les maîtres d'ouvrage vers le haut et toute la filière du bâtiment. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est le faire de façon pragmatique et d'entraîner tout type d'acteurs. Aujourd'hui, il y a certains acteurs qui sont rompus à l'exercice de la certification, d'autres pas du tout. Certains ont des pratiques très vertueuses, d'autres moins. Et donc, c'est de commencer par quelque chose.
Alors, justement, on va entrer dans le sujet, parce que ce que vous dites est fondamental. Quand on est promoteur, Laetitia, tout ça a un impact sur le mode constructif, sur la façon d'appréhender à nouveau les opérations, finalement, dans une certaine mesure. En quoi c'est vertueux? Alors, vous avez déjà opéré un virage, puisqu'effectivement, vous êtes devenu entreprise à mission. D'ailleurs, d'autres collègues, je veux dire concurrents, mais vous ont bien emboîté le pas, hein, parce qu'on a d'autres opérateurs du secteur qui l'ont fait. Donc on voit bien finalement que les structures de capitaux évoluent vers des ratios, encore une fois je réinsiste, qui sont extra-financiers. D'ailleurs, je vais même aller plus loin, on ne peut plus lever de fonds si on n'est pas sur de la réponse à des normes ISR, par exemple, ou des normes ESG. Je vois comment les banques prêtent aujourd'hui sur ce type d'opération. Elles sont très scrupuleuses et on peut les comprendre. En quoi ça change la façon dont vous travaillez en tant que promoteur ?
Le fait d'avoir une certification ou le fait d'avoir ses attentes en face de nous ?
Les deux.
Les deux. L'un répond à l'autre, en fait. L'un répond à l'autre. Mais j'allais dire qu'en créant notre certification, on devient... En tout cas, c'est pas mettre acteur de notre destin. Et c'est ça qui était extrêmement important. On parle depuis tout à l'heure de pragmatisme. Et d'ailleurs, que ce soit l'entreprise à mission ou toute démarche RSE, je crois que le pragmatisme est le maître mot pour être viable à long terme et pour ne pas tomber dans le greenwashing. Parce que voilà. Voilà. Donc là.
C'est très tentant, mais il faut savoir y résister. Alors, pour tomber dans le. Parfois.
Je ne sais pas si c'est tentant, parce qu'à mon avis, c'est vraiment une réflexion à très court terme.
Mais oui.
Voilà, donc pour moi, c'est bon, pas tentant déjà, puisque devenir entreprise à mission, c'est le seul statut opposable aujourd'hui en tant qu'entreprise.
Mais si je vous demande la raison pour laquelle vous l'avez fait, qu'est-ce qui vous a pris il y a 2 ans, quand vous vous êtes dit, finalement, vous auriez pu rester tranquillement actionnaire de votre propre entreprise, être tranquille et finalement ne pas trop vous poser de questions. Je caricature un peu, mais... Qu'est-ce qui a présidé au fait que vous avez décidé d'être entreprise à mission ?
Alors,
une démarche singulière.
Alors déjà, c'est une démarche de conviction. Ça, c'est évident.
Conviction philosophique ?
Conviction qu'aujourd'hui, l'entreprise est au bon niveau dans la société pour pouvoir intervenir de manière efficace. Il y a à peu près 3 niveaux d'intervention aujourd'hui. Le niveau individuel, on fait tous du tri, on essaie de se déplacer en transport en commun. Et même si on est des millions à faire ça, ça va porter. Mais malgré tout, c'est un impact qui est minimum. Ensuite, il y a l'impact que peuvent prendre les collectivités ou l'État, sur lesquels on n'a pas grand-chose en termes de moyens d'action. Et ensuite, il y a l'entreprise. L'entreprise qui est composée de dirigeants, mais aussi de collaborateurs, qui ont tous envie de faire quelque part dans leur coin, mais qui ne savent pas trop comment faire. En fait, ce n'est pas facile d'entreprendre des démarches vertueuses sur tous ces sujets. Et je crois qu'au niveau de l'entreprise, on est le bon niveau pour avoir une vraie action avec un peu de moyens.
Est-ce que vous évoquez la citoyenneté, l'engagement citoyen ?
Ah mais ça, il est... j'ai vu le changement. Alors, on dérive un peu, mais ça fait partie quand même du sujet.
Je pense qu'on est en plein...
Voilà, moment. J'ai vu l'engagement au niveau de mes collaborateurs. Immédiatement, déjà l'enthousiasme qu'a soulevé la démarche, le sens que ça a donné, les pilotes qui sont devenus les ambassadeurs en interne et en externe. Donc ça a complètement changé leur position, je pense, de collaborateurs et de citoyens. Et ils nous le disent tous les jours.
Est-ce qu'on est dans la quête du sens ?
Absolument. Et c'est en même temps, c'est l'effet, en si peu de temps, a été impressionnant.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, on est vraiment aligné dans l'idée, parce que ce qui est une apparence, et je le dis pour ceux qui nous écoutent, c'est très technique, il faut le dire. D'ailleurs, on utilise prestataire pour votre pertinence technique. Vous êtes ingénieur, ce qu'on achète chez vous, c'est du jus de cerveau. Donc, quelque part, on voit bien que le sous-jacent, justement, de cette prestation qui est complexe, technique, c'est un projet anthropologique de bouleversement sans précédent d'une civilisation moderne. Alors, c'est peut-être un peu prétentieux ce que je dis, mais on vit une période qui est une période incroyablement transformatrice des sociétés modernes. Ce qui est très intéressant, je fais le lien justement par rapport à cela, et ça entre d'ailleurs dans ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'avoir un référentiel propre au sein du réseau dans lequel on développe une véritable identité à travers ce référentiel, c'est le fait que ces sociétés veulent trouver du sens dans ce qu'elles font. Parce que, en fait, la technologie nous amène finalement à cette prise de conscience qu'on n'a qu'une seule planète, que les émissions de carbone sont essentiellement faites par la ville, après le transport, et que le transport lui-même aussi également est en train de faire sa mue. Est-ce que vous, Karine Thomas, dans vos pérégrinations, dans le fait d'évangéliser vos clients en les amenant justement à se saisir de vos labels et de se référencier et de créer ces référentiels ou de les adapter en fonction de leur réalité, vous sentez qu'il y a une masse critique? Autrement dit, est-ce que vous sentez qu'il y a une économie réelle qui est en train de basculer vers quelque chose qui finalement est irréversible? On devra de toute façon transformer nos villes.
Oui, tout à fait. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Il y a quelques années, en réalité, les aides incitatives, elles sont là parce que, au départ, quand il a fallu produire des bâtiments performants et certifiés, comme je vous le dis, la certification, ça a longtemps, et ça l'est encore, vécu comme quelque chose de cher, de chronophage, de difficile, et ça en rajoute au maître d'ouvrage.
Oui, C'est comme ça qu'ils le vivent.
C'est comme ça qu'ils le vivent.
C'est vrai,
et nous, on a
juste.
Voulu bousculer ces a priori et de faire en sorte que la certification, justement, ne soit pas vécue comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité. Il y a encore quelques années, le panel de nos clients, c'était essentiellement des bailleurs qui saisissaient la certification pour équilibrer l'opération financière et donc bénéficier d'aides, de dispositifs. C'est encore le cas pour certains parce que c'est important. Les promoteurs, lorsqu'ils vendent en bloc en VFA, des bailleurs font aussi la certification, mais on voit quand même un changement dans le paysage et de plus en plus d'acteurs sollicitent la certification parce qu'effectivement c'est une nécessité, parce que en faisant des bâtiments plus performants, en visant des exigences au-delà de la réglementation, on anticipe de toute façon les futures réglementations, et puis il y a des pratiques qui se mettent en place.
Justement, comment vous arrivez à basculer? On a fait une étude, on a fait une étude là-dessus sur justement des projets de transformation d'entreprise. Exactement, vous avez dit une chose tout à l'heure qui n'est pas anodine du tout. Vous avez des collaborateurs joyeux, heureux. Parce que donc ça veut dire que chez vous, vous n'avez pas fait du top-down, vous avez fait du bottom-up. C'est parti du bas vers le haut. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez réfléchi adopteur. Sans adoption, il ne peut pas y avoir de réalisation. Vous partagez cette idée?
Complètement.
Comment on fait pour embarquer à l'échelle Iris des
comment
entreprises.
On fait pour embarquer? Justement, en partant du réel des maîtres d'ouvrage, en leur montrant que notre démarche, elle est avant tout pragmatique. Et on parlait tout à l'heure, le greenwashing, c'est quoi? C'est de proposer un socle et une offre qui n'est pas adaptée aux besoins du maître d'ouvrage et qui n'est pas adaptée à ses possibilités. Là, on part perdant d'office parce que de toute façon, ils n'iront pas. Ils ne vont pas adopter quelque chose qui est... Enfin, c'est comme les objectifs dans une entreprise, c'est à tous les niveaux. Quand on sent que c'est inatteignable, on n'y va pas.
C'est clair. Et vous avez dit autre chose qui est important, on se dit tout. C'est que souvent, pour des raisons à la fois financières, des financements qui sont souvent des financements à effet de levier, on a besoin de répondre à un certain nombre de normes et on se dit, bon allez, là il me faut le label. Bon, trouvez-moi le label pour qu'on puisse avoir l'opération, parce que là ça commence à me saouler.
Exactement.
Je l'ai vécu, je vous le dis, je l'ai vécu. Là, actuellement, je suis sur une opération de 11 immeubles dans Paris. Je peux vous dire que c'est complexe. Et on a du mal à faire passer. Et il y a une chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'en réalité, l'adoption, elle se fait vraiment à l'échelle la plus basse. Et je crois beaucoup au fait que les troupes, pour que ça devienne vraiment un projet global de l'entreprise, ça vient du bas. Tu es d'accord, Franck?
Je suis plus que d'accord, parce que c'est l'histoire de ce référentiel. Ce référentiel, il a une particularité, c'est qu'il est progressif. L'idée, comme tu le disais Sylvain, comme le disait aussi Laetitia, c'est de donner du sens. Et donner du sens aux collaborateurs, mais aussi donner du sens pour nous, en tant que tête de réseau, à chacune des sociétés qui constituent ce réseau, parfois avec quelques collaborateurs, parfois avec des centaines de collaborateurs, parfois avec une production de quelques dizaines de logements, parfois avec une production d'un millier de logements. Et donc, la particularité de notre référentiel, c'est justement d'embarquer tout le monde. On y met trois niveaux, des trois niveaux de bon sens, à savoir que celui qui est sur un territoire relativement détendu, qui a moins de contraintes politiques, etc.,
il
et qui n'a pas
adapté.
Il prend donc le premier niveau du référentiel, voire le deuxième. Ça veut dire s'il veut aller vers le niveau 3, il y va dans une démarche personnelle. S'il n'est pas équipé en termes d'ingénieurs, de structures, etc., il peut s'orienter vers un AMO environnemental qui va lui faire passer du premier niveau au deuxième et le cas échéant au troisième. Inversement, si on est sur une métropole comme Toulouse, par exemple, sur Lyon, sur Grenoble, etc., là où il y a déjà des contraintes importantes, il est essentiel d'avoir un référentiel qui permette à la fois de répondre à ces exigences locales élevées, tout en étant maître de ses projets. Donc, en allant choisir effectivement là où on le peut, parce qu'il y a aussi des items contraints, bien sûr, dans toutes ces chartes, par exemple, mais on peut aussi aller choisir les siennes. Je donne toujours, quand j'explique au réseau Procivis, et en particulier aux acteurs les plus petits, qui sont sur des territoires plus détendus, que si on met un item sur l'eau, il n'est pas très important de mettre un grand niveau. Si chacun se dit, dans le référentiel Procivis, je mettrai des robinets économiseurs d'eau ou des chasses d'eau un peu plus économiques. On n'est pas sur des enjeux de budgétaires très importants. Et ils ont fait un vrai premier pas concret pour l'homme, pour la planète, pour l'occupant et pour son porte-monnaie. Et donc, ces petits pas-là vont faire en sorte que ces entreprises-là vont petit à petit intégrer ce process qui leur viendra naturellement, comme on le faisait chez nous, effectivement, pour trier nos déchets il y a 5 ans. Et puis, petit à petit, c'était une corvée, on s'obligeait, on avait parfois honte de se tromper de poubelle.
C'est
et ben, voilà, et maintenant, on y arrive à peu près tous. Et bien, c'est en fait ce référentiel, c'est
somme,
ça. C'est l'idée d'emmener tout le monde.
Des petits gestes, c'est l'effet papillon, hein, finalement. On a l'impression, quand on fait du tri sélectif ou quand on utilise et qu'on réduit son empreinte carbone, qu'on agit à l'échelle iris de son quartier, de sa rue. Mais en réalité, c'est la somme, finalement, de cet effort collectif qui conduit à ce type de changement. Je suis sur votre site, Karine. Alors, les chiffres parlent pour vous. 2700 opérations en cours de certification partout en France. 120 000 logements, 1 450 000 mètres carrés dans le tertiaire.
Oui.
Pas mal.
Oui. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que nous sommes le seul acteur à certifier à la fois les bâtiments, les logements et la partie tertiaire.
Merci d'avoir... J'allais vous poser la question. Justement, parce que vous n'êtes pas seul forcément sur le marché, bien évidemment, mais vous avez des collègues. On n'a pas de concurrents, on est tous dans la même conjonction. C'est le compagnon du devoir qui vous le dit. Alors justement, Laetitia, lorsqu'on est une entreprise qui a été très exposée, les promoteurs qu'on a voulu tuer, excusez-moi du terme, hein, mais il y avait un vrai contrat qui pesait sur les promoteurs, hein, je vous le dis, et vous le savez, hein, vous les connaissez, je ne vais pas dire les chiffres. Mais on en a quand même un peu plus d'une centaine qui ont mis le genou à terre. Sur les 18 derniers mois, je trouve ça absolument délétère. Est-ce que, si vous deviez aujourd'hui, et je sais que vous l'avez fait aussi avec vos collègues, diffuser l'information dans cette réflexion nécessaire qui transforme votre métier, vous êtes bien d'accord que ce type de référentiel qui répond à un certain nombre de demandes, c'est aussi un changement de paradigme de vos propres métiers. On ne sera plus les promoteurs que nous étions dans le passé, clairement.
Il y a une phrase que je dis toujours à mes équipes quand je leur apporte une nouvelle idée ou qu'on discute de ça, je dis « Les gars, il faut prendre le changement par la main avant qu'ils nous prennent par la gorge. »
C'est une
phrase que j'aime beaucoup parce que je la trouve très imagée, mais tellement vraie.
Si vous permettez, je reprendrai cette punchline.
Voilà.
C'est très bien. Ouais.
Donc, elle résume tout. Mmh. Et aujourd'hui, on sait qu'il faut changer. Et moi, je préfère piloter la voiture qui tourne qu'être à l'arrière parce que j'ai la nausée. Donc, je préfère être au volant. Et c'est indispensable. Et à tous les niveaux, on parlait de l'intérêt aussi donc, de cette certification ProCivis. Ça va être aussi de pouvoir se positionner en tant que challenger des collectivités. Puisque, notamment, je parle de Toulouse parce que c'est la région que je connais. On a des exigences qui sont très fortes des collectivités à chaque fois qu'on répond à des consultations avec des impositions. Et on souffre aujourd'hui de l'empilement de ces obligations financièrement qui peuvent arriver jusqu'à empêcher un bilan de tourner, une opération de sortir. Et je pense que la possibilité de pouvoir proposer une alternative de certification qui répond aux attentes, bien évidemment, puisqu'on est parfaitement aligné avec le besoin, mais qui peut-être va ouvrir tout simplement, créer un rapport de force avec des situations qui peuvent être très en monopole actuellement, et en tout cas proposer une alternative. Donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant.
Est-ce que vous, en tant que promoteur, ils n'ont pas trouvé une formule pour les femmes promoteurs, promotrices ou quelque chose.
Non,
ils devraient s'y mettre. Hein,
mais tout ce qu'on peut essayer, c'est pas très joli à l'oreille.
Alors, vous en tant que promoteur, ouais. Laetitia, compte tenu des difficultés que traverse le métier, est-ce que le fait d'avoir adopté ce type de référentiel, d'entrer dans ce schéma, qui est un schéma extrêmement qualitatif, compte tenu du fait que vous avez déjà transformé votre entreprise, c'est aussi une garantie pour l'avenir?
On l'espère. Alors, pour être très transparente, aujourd'hui, on a une crise d'une telle violence que c'est pas le fait d'avoir une certification ou même d'être entreprise à mission qui, si à un moment donné, vous ne faites pas évoluer votre modèle économique, va sauver la situation. Parce qu'on parle de tout à fait autre chose. Là, on parle d'une industrie qui subit en 2 ans 50% de baisse de son activité. Donc, quelle industrie pourrait supporter un tel choc? je n'en connais pas beaucoup.
Le marché est divisé par deux, donc
voilà.
Forcément...
Voilà. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est de conserver nos équipes. Chez Procivis, on a une chance immense, c'est que notre actionnariat et notre format nous permet aussi de travailler sur de l'accession sociale à la propriété. Hein, c'est notre cœur de métier, sur lequel nous avons encore un marché. Donc c'est un vrai avantage concurrentiel par rapport à mes collègues promoteurs que je représente donc sur Toulouse-Occitanie. Bien évidemment que c'est indispensable. De toute façon, il faut changer nos métiers, il faut changer notre image. Je me bats pour ça depuis des années, on en parlait tout à l'heure. La mort des promoteurs ne fera pleurer personne.
C'est très clair.
Et pourtant, les promoteurs sont quand même les faiseurs et les bâtisseurs de villes. Et c'est un besoin fondamental aujourd'hui que de se loger. Mais c'est très long. C'est très long. Et puis malheureusement, il ne faut pas le nier, il y a quelques contre-exemples d'activités, de confrères qui ne nous aident pas non plus, hein, bien évidemment.
Mais oui. Voilà. Comme dans tous les métiers.
Comme dans tous les métiers, exactement. Mais c'est vrai que c'est souvent
en exergue. Laetitia, vous avez raison de rappeler, il faut dire les chiffres, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Oui.
53% de la production de logements neufs, c'est les promoteurs privés qui le font pour le social.
Oui, absolument.
Vous savez. 62% des locataires du parc locatif privé sont éligibles, et d'ailleurs ces chiffres aujourd'hui augmentent, au logement social.
Mmh.
Autrement dit, on a besoin des investisseurs privés, je le redis.
Ah oui.
On a besoin d'aller vers des processus d'amortissement, on a besoin de la réduction de la TVA, et on a surtout besoin de faire reconnaître le logement comme un produit de première nécessité. Est-ce que vous pouvez vous passer de sucre, Karine Thomas ?
Tout à fait.
Est-ce que vous pourriez vous passer de votre maison qui vous abrite ?
Non.
La différence, c'est la TVA. Le sucre est à une TVA de première nécessité, à 5%, et votre logement, c'est 20% de TVA. C'est une injustice. C'est une injustice. Autrement dit, il serait temps qu'on réfléchisse. Et je vais même aller plus loin, Laetitia, et je le dis aussi à Franck qui est là en tant que promoteur. On devrait vous décorer comme un citoyen de la ville, parce que vous participez à deux choses. Le lieu de l'intime, et où se construisent des projets de vie pour les Français, et vous réalisez au quotidien, quand vous remettez les clés ou quand vous livrez, les rêves de vos clients. C'est ça, en fait, qui est important. C'est pour ça que vous appelez Pierre Passion. Et c'est ça aussi qu'il faut faire passer comme message. Et là, on a des chiffres, hein, je vous les donne, les chiffres. Hein. Ils sont là. Je peux aussi, par exemple, vous prendre un autre chiffre. 26% des Français, selon un sondage OpinionWay, ont annoncé un truc surréaliste, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la presse, ils renoncent à faire un enfant. Faute de logement. 20% déclarent ne pas se mettre en couple, faute de logement. 17% des étudiants ont renoncé à leurs études, faute de logement. On est à un moment donné, voilà, peut-être qu'on s'arrête. Mais je m'égare un peu et il va falloir que nous concluions. Mais je resterai bien une heure ou deux de plus avec vous, ça serait extrêmement bien. Ce qui est très intéressant dans notre contenu pour cette table ronde, c'est que finalement, il n'y a pas de fin. On pourra continuer véritablement à réfléchir ensemble pour l'amélioration de la cité. Je vous propose un jeu pour continuer et conclure cette table ronde. Je vais vous demander à chacun de me donner un adjectif, un mot spontané qui qualifierait les propos que nous venons d'échanger. Je vais commencer par Franck.
Alors moi, ce sera progression continue.
Alors, un seul mot.
Continuons.
Alors, continuons. Ah ouais, pas mal. Continuons, pourquoi pas. Karine.
Pragmatisme.
Pragmatisme. Vous êtes ingénieur ou de formation ?
Absolument pas.
D'accord. Pragmatisme. C'est terriblement efficace, hein, comme mot. Pragmatisme. Laetitia.
Optimisme.
Optimisme. Pour faire preuve d'optimisme, il faut entrer dans un schéma de pragmatisme. Et pour ça, je vous propose que nous continuions tous ensemble dans la même direction. Ce sera la fin de notre interview. Merci en tout cas à vous, Karine Thomas. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Prestataire, prestataire.eu, avec tous les labels. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, vous labellisez et on voit le nom des opérations qui sont en cours de la labellisation. C'est vachement intéressant et je vous encourage à y aller. Merci d'être passé par le plateau de Territoria et de Radio Immo. Un immense merci à Laetitia Vidal, Pierre Passion, patronne de Pierre Passion. Changez rien, parce que voilà, j'ai envie de vous acheter 15 immeubles là tout de suite. Non, mais pour vous dire, je plaisante bien sûr, mais pour vous dire finalement que ce n'est que de l'humain. Voilà, ce n'est que de l'humain, que de l'humain, et encore une fois, aucune application ne remplacera une bonne poignée de main. Voilà, c'est aussi le message que l'on veut faire passer. Un immense merci à notre patron de la maîtrise ouvrage du réseau Procivis, Franck Petit. Merci.
Merci d'animer ces débats pour nous.
C'est un vrai plaisir de partager ces moments avec vous. Ne changez rien. On se reverra sûrement justement pour échanger ce genre de sujet. Mais en plus, vous êtes à Toulouse, donc on a pas mal de gens en commun. Puisque j'ai inauguré la chapelle Saint-Joseph avec Jean-Luc Moudenc lors d'une émission avec Le Figaro. Je ne sais pas si vous y étiez.
Non, je n'y étais pas. Mais...
C'était une très très belle émission. Voilà, il est 17h16. On a une interview à suivre avec la présidente de Salvia Développement ainsi que Fabien Pellissou, qui est le responsable des services informatiques de FDI Habitat, dirigé de main de maître par notre ami Mathieu Massou. On se retrouve dans quelques instants. Merci à tous.
Merci.
Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.